Bien, sur cette formulation-là, on peut dire que la table ronde, non pas épuiser le sujet, bien entendu, mais qu'on ouvre un peu l'échange. Et naturellement, vous avez tout à fait le droit de poser toutes les questions que vous souhaitez sur cette question-là, bien entendu. Vous avez la parole, il y a des micros qui vont circuler. Il suffit de lever la main et puis de dire ben, j'ai envie de dire quelque chose. Voilà, il y a une question de Geneviève, si j'ai bien reconnu, de loin. Non, pas du
non,
tout.
Non, pas du non, tout. Non.
Excusez-moi, c'est ma vue baisse, donc je.
Je suis Béatrice Serrage, je suis coordonnatrice du schéma régional pour la formation des personnes handicapées en Aquitaine. Voilà, c'est vrai que l'ensemble des propos qui ont été tenus, j'aurais eu envie de dire mille choses ou de réagir à plein de moments, hein.
Ben allez-y.
Notamment sur cette question de l'égalité des chances. C'est vrai que le dispositif dont je m'occupe, on se préoccupe de l'accès au droit à la formation, et c'est bien de l'accès au droit et non pas à la chance d'accès à la formation. Et je crois que cette question de la chance est vraiment très dangereuse, me semble-t-il, à utiliser, parce que ça renvoie à une responsabilité individuelle qui peut être très dangereuse pour les personnes.
Et une société du mérite.
Absolument, absolument, du mérite. Et du coup, la société se déculpabilise quant à l'échec des uns ou des autres. Donc ça, c'est une première chose. Mais je voulais surtout intervenir par rapport tout à l'heure... je ne sais plus lequel d'entre vous a évoqué le besoin d'information des personnes sur les dispositifs pour éviter l'autocensure dans les projets, pour que les projets soient ouverts sur un champ des possibles plus large, et que ces dispositifs de droit commun, et que les dispositifs de droit commun aient les capacités et compétences et expertises pour réellement accompagner les personnes. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que moi, il me semble que cette question de l'autocensure, elle se pose pour la personne, mais elle se pose aussi pour les accompagnants. C'est-à-dire que si on ne travaille pas véritablement sur la compensation du handicap, c'est-à-dire que par rapport au projet que la personne, pour lequel la personne aurait des appétences, si on ne le conçoit qu'à handicap zéro, enfin je m'entends en disant cette notion de handicap zéro, c'est-à-dire que si le projet est construit pour que le handicap soit quasiment gommé, que la personne ait toutes les chances de réussir parce que, effectivement, dans ce métier-là, dans ce domaine professionnel-là, ben, son handicap n'aura pas d'impact, donc on est à handicap zéro. Ça signifie qu'effectivement, son champ des possibles va être extrêmement restreint parce qu'en fonction des handicaps, la personne va gommer forcément plein de projets potentiels qui l'auraient intéressé. Donc c'est vrai que cette question de la compensation du handicap, il me semble qu'elle est vraiment au cœur de la nécessité de réflexion des professionnels qui accompagnent la personne. Par ailleurs, en Aquitaine, on travaille sur un dispositif effectivement pour essayer d'aider les personnes à construire des projets professionnels qui leur conviennent et à se qualifier. On se rend compte que si on s'arrête à l'expression de la personne sur « j'ai besoin de tel ou tel élément pour compenser mon handicap », on se rend compte que les personnes ne demandent quasiment rien. Parce qu'au bout du compte, elles n'ont pas forcément conscience du champ des possibles, de qu'est-ce qu'elles peuvent demander effectivement pour compenser leur handicap. En quoi elles vont pouvoir avoir des conditions de formation plus confortables, et là je le dis entre guillemets, avec vraiment des guillemets très, très appuyés. Parce que quand on parle de confort, tout de suite, on imagine que ça va être pour favoriser les personnes. Donc, ce qui me semble important, c'est cette conjugaison. Quand vous disiez tout à l'heure, les dispositifs de droit commun, il faut qu'ils aient la compétence et l'expertise. Nous, on s'interroge beaucoup pour savoir quelle est la place, justement, que les milieux médico-sociaux peuvent prendre pour accompagner le droit commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un expert, mais il y a une conjugaison d'expertise à créer, à construire, entre l'expertise des pédagogues de la formation, enfin des professionnels de la formation du droit commun, qui ont leur expertise sur le métier visé, sur la formation construite, sur les méthodes pédagogiques qu'ils utilisent, mais aussi en face des professionnels du handicap qui vont amener leurs compétences au regard du handicap, qui vont lire ce droit commun au regard du handicap et des contraintes de la personne. Et il nous semble vraiment que c'est cette conjugaison de compétences qui va créer une nouvelle compétence collective, qui est absolument indispensable à la personne. Voilà. Enfin,
En fait, il n'y a aucune question. Vous êtes une table ronde à vous toute seule.
Excusez-moi.
Mais je retiens deux idées fortes qui étaient dans votre propos, mais qui ont émergé aussi de la table ronde, et qui sont celles de médiation que Jean-Marie a évoquées, et celles en fait de centre de ressources. C'est-à-dire qu'il faut arriver à construire ces compétences multiples et interactives dans les territoires, permettant effectivement cette médiation forte, cette connaissance forte des personnes et des parcours, facilitant le choix des personnes, parce que sinon on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une telle mauvaise représentation de soi à cause de cette représentation de la société qu'on est dans l'impossibilité de choisir parce que le champ des possibles n'est pas ouvert, quoi. Mais ça, je dirais, ça vaut pour qui que ce soit. C'est ça qui pour moi, c'est le message fort. C'est un processus qui vaut pour n'importe qui, en
absolument.
Fait. Absolument. Avec plus ou moins de charge, je dirais, mais ça vaut pour n'importe qui.
C'est vrai, bon. Je m'excuse, je ne voulais pas ouvrir une table ronde différente.
Vous êtes dans notre table ronde.
Il me semble qu'il faut surtout, à l'heure actuelle, sortir de ce parallélisme, c'est-à-dire le médico-social d'un côté et le droit commun de l'autre. Il me semble que le terrain qu'il faut absolument qu'on arrive à défricher, c'est cette rencontre entre les deux, voilà, mais qui reste vraiment à construire. Enfin, voilà, je n'amène pas une vérité. Hein.
Non, mais par de petites choses comme ça, on avance. D'autres, oui, une main qui se lève là-bas. Vous dites qui vous êtes, peut-être ?
Oui.
Merci.
Oui, bonjour, je suis Valérie Éloin du Centre Info, le Centre National d'Information sur la Formation. Et en fait, j'avais une question par rapport à justement ce rapprochement entre les réseaux qu'on je vais appeler spécialisés et le droit commun. Quelles sont vos participations aux travaux actuels sur l'orientation, notamment à travers le délégué interministériel à l'orientation et l'élaboration des portails d'orientation qui sont en cours actuellement? Et puis juste peut-être une précision entre.
Excusez-moi de vous couper. Pour répondre à cette question, il faudrait peut-être préciser davantage le schéma que vous avez évoqué.
Parce que. Actuellement, le DIO travaille à mobiliser les réseaux d'information, orientation, toutes les missions locales, PAIO, etc. autour d'un travail sur l'orientation et l'accès à l'information sur les métiers publics, les métiers privés, les métiers vus par les branches professionnelles, etc. Et un travail, d'autre part, de liaison entre la description de ces métiers et l'accès via la formation, notamment au travers de la collecte de l'offre de formation des CARIFs au niveau régional. Et donc, ayant participé aux premières assises de l'orientation, notamment où le DIO était présent et où ces questions étaient développées, je voulais savoir si vous aviez une représentation dans ces manifestations-là où on pourrait faire valoir.
Alors, Eric va donner une esquisse qui n'est pas une réponse, c'est une remarque par rapport à votre propos.
Ça fera presque la liaison entre ce que vous dites, madame, et puis ce que disait l'intervenante précédente. Nous, au niveau de droit au savoir, avec la DIO, on a vraiment joué la complémentarité. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a le service public de l'orientation, qui a l'ensemble des missions que vous venez de poser. Et par contre, on avait un apport à faire qui était ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette base de données, parce que ça, l'ONICEP, la DIO, les services publics de l'État ne le faisaient pas, et il y avait une utilité à compléter cette articulation pour faciliter l'appropriation par les familles, par les élèves en situation de handicap dans la construction de leur projet, de ces éléments d'information, et on a apporté notre petite brique. Et ça a été bienvenu de la part de la DIO, et on a pu intégrer ces éléments-là à leur démarche de portail. Et je pense réellement que dans cet esprit-là d'être centre de ressources, d'être un élément coopératif, c'est certainement le meilleur avenir possible pour le secteur médico-social, pour le secteur associatif, militant, revendicatif, aux côtés des dispositifs publics et des politiques publiques.
Moi, j'ai envie de poser une question à la salle. Est-ce que quelqu'un était au courant de ce dispositif et de ces systèmes de travail ?
D'où, effectivement, moi, mon constat, c'est effectivement l'absence de vos réseaux, mis à part le travail dont nous parlait M. Chenu à l'instant, le constat de non-représentativité, en tout cas dans ces débats. Et je disais ça parce que je trouvais ça dommage par rapport à vos préoccupations, effectivement, d'accès à l'orientation.
Sur ce point-là, enfin, concernant le dispositif de l'orientation, c'est au niveau de la fédération de la FAGER, c'est un de nos axes de travail. On souhaiterait que les centres de préorientation puissent travailler avec les services publics de l'orientation comme contributifs. C'est des choses qui existent déjà au niveau des centres de formation et au niveau des CARIF, mais c'est vrai que sur le service public de l'orientation qui est en train de se mettre en place est vraiment un enjeu fort à ce qu'on puisse y participer. Donc ça, c'est un point sur lequel on souhaitait travailler. Un autre point sur la question des coopérations. Je me demandais si j'avais pas un propos un petit peu généraliste tout à l'heure. On a travaillé, est-ce qu'il devait y avoir une représentante des MDPH à la table ronde qui n'a pas pu venir. On a travaillé avec les MDPH sur cette question dans le cadre d'un dispositif expérimental. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler, Record. L'idée, c'était des ressources coordonnées au service des MDPH au moment où elles sont mises en œuvre. Donc, ça a été expérimental dans 10 départements, ça a été ensuite dans 7 autres. On a une petite vingtaine de MDPH qui ont travaillé sur faciliter l'accès aux dispositifs d'orientation et de formation des personnes en situation de handicap. Et l'idée, c'était l'accès à n'importe quel dispositif du moment qu'il répond à la question posée. Et l'idée, c'était de se dire, plutôt que de faire travailler comme d'habitude les dispositifs entre eux, c'était de partir des attentes des personnes. Et donc, ça a été expérimenté dans les MDPH concernés, donc c'est pas tout le monde, hein, 17 sur, il y en a encore 100, c'était de travailler directement avec les personnes. Alors bon, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en place dans différents départements. Tout le monde s'en est sorti beaucoup plus pertinent. Effectivement, ça changeait. Au lieu de se dire, on a 15 dispositifs sur le territoire, on en avait peut-être 15, mais c'est au lieu qu'ils se présentent chacun, je suis financé par qui et je réponds, il faut être dans quelle case pour pouvoir rentrer, c'était je travaille sur quoi.
Le système global s'adapte à la personne.
Voilà. Ça a quand même fonctionné, hein. Il y a eu une expérimentation en 2006-2008, il y en a eu une autre dans de nouvelles MDPH qui s'est terminée l'année dernière, ça a été accompagné, il y a eu un certain nombre de bonnes pratiques, fiches synthèses qui ont été proposées sur comment, et l'idée c'était travailler ensemble à partir des personnes, certaines MDPH ayant mis des groupes d'usagers comme elle voulait mettre en place des dispositifs. Qu'en pense le groupe d'usagers qui était représentant des personnes qui se présentaient à la MDPH? Ceux que ça intéresse, pour développer plus.
Jean-Marie.
Oui, toujours sur cette question de la coopération, hein, où on voit bien que c'est là où nous avons une place que nous avons à prendre. Moi, je ferai référence au décret, à l'arrêté du 2 avril 2009 édité par le ministère d'Éducation nationale sur justement la coopération entre le médico-social et l'éducation nationale. Et je suis un peu navré de voir qu'en fait ça se traduit en des usines à gaz administratives et absolument pas le développement de coopération. Parce qu'effectivement, madame, pour le coup, faites votre travail, vous le faites bien, mais venons-nous là, médiateurs, adaptateurs, passerelles, pour que les choses puissent se mettre en place.
Oui, simplement un point d'information à Madame Valérie Loin. Il y a une dizaine, dans les années 90, le Centre Info, la FAGER et le réseau de formation professionnelle étaient très proches, et notamment je me souviens de ces journées, cette université d'hiver à Autran sur Dessine-moi un projet, où il y avait eu toute une démarche, et je voulais savoir si ça avait perduré ou pas en termes de relations, ou si finalement le secteur spécialisé de formation s'est retranché dans son univers.
Eh bien, sur cette question très particulière du partenariat, je ne sais pas, donc je ne suis pas chargée du développement des partenariats, mais L'idée, c'est que mon idée de mon intervention, c'était que le prochain portail qui est en cours au niveau national pour l'orientation s'appelle le portail pour l'orientation pour tous. Et effectivement, ce pour tous m'interpelle particulièrement dans le cadre de ce congrès aujourd'hui. Et l'idée, ça serait effectivement de pouvoir peut-être réactiver des partenariats qui étaient en cours historiquement avec le Centre Info.
Merci.
Merci beaucoup.
Autre précision simplement sur l'éducation nationale. Là, je prends ma casquette de délégué général de l'UNALG. Effectivement, les machines à gaz, ils savent faire. Hein. Ça, alors là.
Monsieur voulait prendre la parole. Donc, il y a une inversion un petit peu des personnes qui vont monter pour vous parler, puisque c'est des personnes sourdes, et puis l'interprète qui va continuer à interpréter.
Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Moi, je suis inquiet en ce qui concerne la formation à destination des personnes sourdes. Au niveau des MDPH, au niveau national, il y a des choses qui ne sont pas comprises sur la culture sourde. Les MDPH font des évaluations en se disant que ça peut fonctionner, mais c'est important de rajouter cette dimension de culture. Sinon, on va se heurter encore à des barrières et à des incapacités. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce soit pris en considération. C'est vrai que j'ai mon collègue là qui est formateur, moi aussi, et c'est vrai que c'est important de faire des sensibilisations au sein des MDPH. C'est vraiment ce que je souhaiterais qu'on mette en place, parce que sans ça, je pense que le problème va persister. Voilà, je vous remercie et j'aimerais qu'on travaille ensemble.
Alors, cette question est une question importante, bien entendu, non pas qu'on l'attendait, hein, mais je regrette personnellement que la représentante de la MDPH 77, qui était censée venir, qui plus est, qui est présidente de l'association des directeurs des MDPH, se soit désistée pour des raisons professionnelles. Je le comprends, je l'admets, mais il est clair qu'on ne peut pas parler au nom de la MDPH, des MDPH, ce qu'on peut faire, et je pense que les acteurs de terrain ici présents le font déjà, d'insister auprès des MDPH pour qu'elles intègrent ces différentes cultures, pas que celles des personnes sourdes, mais les différentes cultures, et cette acculturation est nécessaire. Il n'empêche que je ne peux pas répondre à la place d'un point de vue qui n'est pas le mien aujourd'hui, c'est-à-dire de l'intérieur des MDPH.
Mais peut-être illustrer un propos donc, sur plusieurs départements que je connais bien. Effectivement, alors pas nous directement en tant que structure ou services médico-sociaux, mais les associations de personnes sourdes qui mènent des actions de sensibilisation, d'information au niveau des MDPH. Et c'est effectivement tout à fait important que la confrontation, j'en parle, existe aussi, quoi, que ce soit autre chose que des concepts autour d'une table. La rencontre est très importante et que ce soit vos associations qui fassent ces démarches-là de sensibilisation, c'est à mon avis tout à fait important.
Monsieur voulait aussi intervenir. Eric, vas-y.
Très 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 rapidement, pour aller un petit peu dans le sens de ce que dit monsieur, il y a une des difficultés au-delà de la capacité et de la culture d'évaluation des MDPH, qui est le simple besoin de revalorisation d'un certain nombre de plafonds, notamment dans les dispositifs d'accompagnement sur les formations, notamment universitaires, puisqu'actuellement l'enveloppe maximale allouée est de l'ordre de 10 000 euros par an, puisque c'est comme ça que les grilles des prestations d'accompagnement ont été définies. Et il est vrai que sur un certain nombre de formations spécifiques, techniques, où le besoin de l'interprétariat pour les sourds-signants est important, ce plafond-là est une vraie difficulté. Et en parallèle, sur tout ce qui est accompagnement au stage, accompagnement à l'emploi, à la sensibilisation au monde professionnel, la disparition programmée des A2EH, des aides à l'emploi des étudiants handicapés en juin prochain, puisque la GFIP termine le financement à ce moment-là, sera une vraie difficulté, parce que pour beaucoup de jeunes en situation de handicap, à la différence des autres élèves, des autres étudiants, ils n'ont pas été vers les jobs d'été, ils n'ont pas été vers les stages du fait du handicap, et que n'étant pas accompagnés à ce moment-là, ils sont dans une vraie difficulté pour déterminer ce que sont leurs besoins. Et s'ils ne sont pas accompagnés par des services spécifiques, des services formés qui vont pouvoir les aider à faire émerger leurs besoins, ils vont les sous-estimer et ils seront en difficulté au travers de leur stage ou au travers de leur première expérience professionnelle, ce qui ne sera pas bon ni pour eux, ni bien évidemment pour l'employeur, que l'employeur soit public ou privé.
Alors ça, c'est une des questions que nous avons posées par l'intermédiaire du président qui a adressé cette lettre à Madame Bachelot. C'est une des questions que nous avons posées à Madame Bachelot. On verra demain dans le petit film si elle y a répondu, parce qu'on a vraiment posé la question de l'arrêt du financement de cette mesure au mois de juin. Donc on verra bien ce qu'elle nous dit là-dessus, si elle nous dit quelque chose. Monsieur, je vous prie de monter.
Bonjour. Donc, je m'appelle Stéphane. Je viens de Bordeaux. Et pour faire suite à mon collègue sur la question des MDPH, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de personnes sourdes, mais qui ont des difficultés avec le français à l'écrit, ou qui ont finalement un manque de lecture sur le français écrit. Alors, c'est vrai que nous, on a besoin de la langue des signes, et ça nous permet d'avoir une véritable accessibilité. Ensuite, au niveau des MDPH, au niveau national, il n'y a pas de personnes compétentes sur l'accueil des personnes sourdes en langue des signes. Donc, il y a beaucoup de personnes sourdes qui renoncent, en fait, à l'accueil et à faire valoir leurs droits.
Madame, ce sera la dernière question ou interpellation, puisque je suis garant aussi des timings. Donc, on arrête là. On est dans le timing, mais on va arrêter là.
Bonjour, je me présente, Fabienne Guiramand, directrice de l'ASIP, Association Sourds-Interprètes de Provence. Et je fais suite aux interventions de ces deux messieurs pour apporter juste une réflexion de la place des professionnels handicapés comme modèle pour ces jeunes que vous avez en suivi, qu'ils soient malvoyants, sourds. Je pense que c'est une vraie réflexion à avoir. Vous parliez d'autocensure de ces jeunes par rapport à leur projet, qui se disent finalement, ben moi je suis sourd, moi je suis aveugle et je peux pas, je sais pas. La présence de professionnels qui leur correspondent et qui fait un effet miroir et qui a une vocation de modèle, il me semble, est essentielle comme interrogation à avoir, y compris dans le médico-social. Et je finirai par une dernière petite parenthèse. Nous avons remercié tout à l'heure Tadeo pour ce magnifique dispositif que permet la vilotypie. J'en rajouterai également pour la présence des interprètes, qui font également un travail difficile
remarquable. Voilà. Et bien entendu, le congrès n'est pas fini, on allait remercier également les interprètes. Merci à eux, c'est une bonne manière de dire que la table ronde est terminée. Bon appétit et à tout à l'heure. Merci.